9h, c'est l'heure de notre rendez-vous chaque semaine avec Émile Proulx-Cloutier. Bonjour.
Bonjour.
Et là, ce matin, dans le cadre de la transition énergétique, une expérience dans Charlevoix.
Oui. Je vous parle de la laiterie de Charlevoix qui a un procédé, ma foi, assez intéressant. Je vous l'explique à la base. Moi, je suis pas un spécialiste de la fabrication du fromage. J'ai appris plein d'affaires. Quand on transforme le lait, donc, pour en faire du fromage, il reste une espèce de résidu à la fin, une espèce de liquide jaunâtre qu'on appelle le lactoséum. Et ça a une charge organique qui est très, très élevée. C'est-à-dire que tu peux pas jeter ça dans une rivière. Là. Ça devient un polluant tellement il y a de la matière organique là-dedans. Il faut que tu le traites. Tu peux le transformer. Je pense que tu peux transformer ça en nourriture pour les porcs. Ils peuvent renvoyer ça quelque part. Ou encore, ça risque d'être fini dans un site d'enfouissement comme du compost un peu. Là. Mais il y a... En fait, ils ont intégré à leur cycle de production un procédé qui est assez fréquent en Europe, mais qui est peu développé ici. C'est-à-dire qu'ils ont choisi de faire de la biométhanisation avec ça. C'est-à-dire ce qui se passe, le processus naturel que quand t'enfouis des matières organiques, ça se décompose, puis il y a des gaz qui s'échappent de ça, dont du méthane. Eux, ils disent, OK, on va le faire, nous, sur place. Donc, on garde notre résidu de production. Ils le mettent dans un énorme... conteneur, le métallique, s'appelle un méthaniseur, et il ferme ça, pas d'oxygène là-dedans, mais il y a ben des microbes et des bactéries qui s'assurent de digérer la matière, puis la séparent en deux affaires, t'as carrément du compost qui reste, et le reste qui s'échappe, c'est du biogaz, donc du méthane et du CO2. Ça, c'est envoyé dans une chaudière au biogaz, il brûle, ça chauffe de l'eau dans des énormes réservoirs d'eau. La chaleur est contenue là, et cette eau-là est envoyée par des tuyaux dans la fromagerie, et ils se chauffent avec ça.
Ah ouais?
Ouais. Donc,
ils sont autosuffisants.
Ben, il faut qu'il y ait du lait qui arrive. Sauf que le lait arrive, il est transformé en fromage, le résidu devient donc dans le méthaniseur du méthane, le méthane est brûlé, chauffe l'eau est conservée, envoyée dans la fromagerie, et ça chauffe le truc. Alors, c'est une espèce...
Est-ce qu'ils ont inventé ça?
Non. Ça se fait en Europe pas mal. Okay. Je sais qu'ici, c'est beaucoup moins répandu, sans doute parce que on chauffe beaucoup avec l'hydroélectricité, mais ça fait pas partie des habitudes de production à grande échelle, paraît-il. Mais c'est une espèce de procédé qui est franchement intéressant, parce que tu dis, OK, là, si le fromage permet de fabriquer de la chaleur, qui permet de fabriquer du fromage, une espèce de cycle qui est... comme on dit, ils s'autosuffisent pas, mais il y a bien moins de pertes. C'est ce qu'on appelle valoriser des résidus, valoriser des déchets. Et ce projet, qui est assez novateur ici, a permis à l'entreprise d'obtenir le prix Mercuriade dans la catégorie développement durable PME en 2012. La biométhanisation au Québec, on en entend parler de plus en plus. On en voit des fois des nouvelles passer, là, une usine de biométhanisation à telle place. En gros, ils vont prendre du compost, eux, des entreprises puis des résidences, puis ils vont essayer ils vont contrôler dans un lieu sa décomposition. Donc, on appelle ça carrément de la digestion. Et là, j'ai appris un mot, anaérobie, ça veut dire sans oxygène. Il n'y a pas d'oxygène là-dedans, ce qui permet aux petites bactéries et aux microbes de faire leur travail. Et ce gaz-là, il est utilisé, il est envoyé quelque part. Mais pour certaines entreprises, il paraît que ce serait intéressant qu'ils le fassent sur place, qu'ils le fassent avec leur propre matière. Donc, plutôt que de l'envoyer quelque part, ben, t'as garde chez toi. Et il semble que c'est un gros investissement au départ, par exemple, pour avoir tout l'équipement pour faire ça. Mais une fois que c'est fait, ben, forcément, tu diminues tes coûts. Si tu te chauffais avec du gaz naturel ou du mazout, mettons, ben là, ça, t'as plus à l'acheter, tu le produis toi-même. Sur le plan environnemental, ben c'est immensément bénéfique parce que c'est une grosse diminution de gaz à effet de serre. Elle est considérée, paraît-il, comme neutre, voire bénéfique pour le réchauffement climatique parce que forcément, ben l'énergie que tu as utilisée pour faire ça, ça a pas brûlé des combustibles fossiles, t'as pas fabriqué. Il n'y a pas du pétrole qui a été extrait pour toi quelque part. Et ultimement, le CO2 qui s'échappe de ce procédé-là, ben il correspond à celui qui a été capté quand la plante elle a poussé avant d'être mangée par la vache qui a fabriqué du lait. Fait que ça s'équilibre quelque part.
Cycle, ouais.
Oui, c'est ça. C'était pas du CO2 de préhistorique enfoui depuis longtemps là, en Alberta. Ultimement, certaines entreprises aussi, et comme on dit, c'est pas pour tout le monde. Là, c'est sûr que certaines entreprises de transformation d'aliments où ils ont créé des boissons, exemple des distilleries, des brasseries, des usines de transformation de fruits et légumes, de céréales, des abattoirs, des raffineries de sucre. Eux, ils génèrent beaucoup de résidus qui ont un fort potentiel méthanogène. Donc, leurs résidus contiennent du méthane et peuvent on peut l'extraire. Ultimement, c'est ça, cette énergie-là peut être aussi vendue à des voisins si tout en a trop. Et en fait, c'est que les résidus, ultimement, dans une entreprise, il faut qu'ils fassent de quoi avec. Là. Ils ne peuvent pas... comme tu dis, tu jettes pas dans la nature. Il y a un
t'enfouis ou tu recycles ou tu récupères.
Oui, mais il y a un poste de budget qui est affecté au fait de, il faut s'en occuper. Donc, il y a un camion qui doit aller le porter quelque part. Donc ça baisse aussi tes coûts de gestion de ta matière organique parce que tu la conserves, puis il y a moins de transport et tout. Et paraît-il même que ce méthaniseur-là, vu qu'il est scellé, ben il contient les odeurs. C'est comme si t'es protégé de ton propre compost avec cette espèce de grosse machine-là. J'imagine aussi que là, ça fait partie des avantages qui sont listés là, sur le site de Recycle Québec, mais ça permet d'améliorer aussi votre image corporative vis-à-vis des clients et des partenaires. Je sais pas à quel point ça... Mais je sais qu'eux, ils sont devenus un peu un musée. Là, les gens peuvent visiter puis voir, t'expliquer comment c'est fait. C'est une bonne illustration, je trouve, de ce qu'on appelle l'économie circulaire. On en a déjà parlé, qui est un principe qui s'oppose, à l'économie de base, disons, dans nos vies, là, qu'on appellerait une économie linéaire, c'est-à-dire que tu extrais de la matière, tu la transformes, tu la transportes, tu la consommes, puis à un moment donné, quand c'est fini, tu la jettes. Ça fait une ligne. T'sais. L'intermédiaire, on a introduit le recyclage dans le cycle. Donc, c'est juste, OK, tu prends de la matière, tu la transformes, tu la consommes, tu recycles un bout des déchets, tu l'envoies quelque part. Mais tu sais pas qu'est-ce qui va devenir. Moi, c'est que, tu sais, ma bouteille en plastique dans le bac, je sais pas qu'est-ce qui advient de ça. Vous en parliez tantôt avec vos commissaires. C'est un petit peu aléatoire.
Ça dépend où t'habites, là.
C'est ça. Tu le lances tu le confies à quelqu'un puis t'espères qu'il va se passer quelque chose. L'économie circulaire, c'est que t'essaies de boucler la boucle le plus possible puis tu te dis, non, on va revaloriser le déchet puis il va servir à quelque chose. Autant faut que tu saches d'où vient ta matière première, tu sais où tes déchets vont s'en aller puis à quoi ils vont servir. Mettons, à grande échelle, dans le livre dont je vous parlais la semaine dernière, « La transition, c'est maintenant » de Laure Varidel, elle expliquait que, mettons, si on prend le même type de procédé ou de structure, mais là, à plus grande échelle, à Oslo, en Norvège, dans cette ville-là, les restes de tables et autres matières organiques sont transformés en biocarburant destiné aux autobus de la ville. Il y a des véhicules lourds en remplacement du diesel. Une autre partie des résidus organiques est transformée en engrais biologique qui sert l'agriculture urbaine dans la capitale. Même, ils ont un incinérateur à Oslo. Là, la chaleur produite par l'incinérateur, elle chauffe de l'eau qui passe dans des tuyaux souterrains puis qui chauffe des bâtiments. Donc, c'est de dire, chaque affaire va servir à quelque chose d'autre. Puis c'est un peu comme dans la nature, quelque part. Tu te dis, OK, la nature, quelque part, elle produit pas de déchets. Le déchet va toujours devenir quelque chose. L'idée que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est d'aller un peu plus vers ça. Puis il y a des avantages économiques, oui, et des avantages environnementaux très forts à opter pour cette structure-là.
Émile, toujours aussi intéressant. Merci beaucoup. Merci à la semaine prochaine, 9h08.